Terroir Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 28 juin 2021. Jean-Roger Pillon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, couvre-feu à Béni dans l'est de la RDC. Les marchés, les écoles et les églises resteront également fermés pour 48 heures. Des mesures prises au lendemain d'une série d'explosions à la bombe. La Russie accusée à l'ONU d'exactions en Centrafrique. Moscou affirme que ses instructeurs ne sont pas armés. L'Irak a marqué aujourd'hui sa désapprobation sur les raids aériens des États-Unis sur son sol. Bagdad parle d'une violation de sa souveraineté. Effondrement d'un immeuble à Miami. Le bilan s'est alourdi à 10 morts. 151 personnes sont toujours portées disparues. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, les autorités ont décrété ce lundi la fermeture des marchés, des écoles et des églises pour une durée de 48 heures à Béni, dans l'est du pays, au lendemain d'une série d'explosions à la bombe. Claire Morin-Gibou.
Dans sa déclaration, le maire de Béni, le colonel Narcisse Mouteba, s'est montré ferme. Toute personne arrivant à Béni doit dorénavant avoir une pièce d'identité. Dimanche soir, un kamikaze a été tué dans l'explosion de son engin près d'un bar. Selon l'armée, il s'agissait d'un Ougandais, Ngoudi Abdallah, très actif aux côtés du chef Amigo, un commandant des forces démocratiques alliées. Une autre bombe a explosé dimanche matin dans une église catholique blessant deux femmes. C'est la première fois qu'une attaque vise de cette manière une église catholique. L'armée a demandé à la population de Béni de dénoncer tout mouvement suspect, de se désolidariser des groupes armés et de se ranger derrière les forces armées. Béni et ses environs sont la cible depuis octobre 2014 de nombreuses attaques des rebelles ADF affiliés, selon les États-Unis, au groupe État islamique. Selon l'épiscopat congolais, les massacres commis par les ADF ont fait au moins 6000 morts.
Selon un rapport de l'ONU, les instructeurs russes envoyés en Centrafrique ont commis avec les forces centrafricaines des violations du droit humanitaire international. D'après Moscou, ces instructeurs non armés ne participent pas au combat dans le pays. Nathalie Barge.
Dans un rapport remis au Conseil de sécurité, le groupe d'experts affirme avoir reçu des témoignages sur un recours excessif à la force par les FAKA et les instructeurs russes, notamment dans les régions minières de la Centrafrique. Des témoignages font état d'assassinats, d'occupations d'écoles, de pillages et d'une participation active des instructeurs russes dans des combats au sol. En avril, Moscou avait fait état du déploiement d'environ 550 instructeurs non armés. En mai, la Centrafrique a annoncé à l'ONU le déploiement de 600 instructeurs russes supplémentaires. Selon le document, certains instructeurs déployés seraient des individus qui se sont identifiés comme ressortissants de la Libye, de la Syrie et d'autres pays. Le document détaille aussi les exactions commises par les milices armées de la CPC, dont le recrutement forcé d'enfants, des attaques contre les soldats de la paix, des violences sexuelles et le pillage d'organisations humanitaires.
L'ancien parti au pouvoir dans le Tigré a dit aujourd'hui avoir repris le contrôle de Mekele, la capitale de cette région, au centre d'un conflit qui l'oppose au gouvernement d'Addis Abeba depuis l'automne dernier. Le gouvernement éthiopien a décrété pour sa part dans un communiqué un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel dans la région. Addis Abeba avait proclamé fin novembre sa victoire contre le TPLF après plusieurs semaines de combats qui ont fait des milliers de morts, 2 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire. Mais le conflit a persisté et des affrontements ont continué d'opposer régulièrement l'armée éthiopienne aux rebelles du TPLF. 6 civils qui revenaient d'une foire hebdomadaire ont été tués dimanche dans le centre du Mali par des hommes armés circulant à moto. L'attaque s'est déroulée non loin du village de Petaka, cercle de Douenza, et a visé des villageois de retour de la foire hebdomadaire de Douenza à bord d'un véhicule de transport public. 7 soldats maliens ont par ailleurs été tués vendredi lors de 2 attaques simultanées visant des postes militaires dans le centre du pays. Également vendredi, 13 casques bleus, 12 Allemands et un Belge ont été blessés dans le nord du pays dans un attentat suicide au véhicule piégé, selon un bilan révisé à la baisse pendant le week-end par la MINUSMA, qui avait fait état dans un premier temps de 15 casques bleus blessés. La plupart des djihadistes ayant commis un massacre début juin au Burkina Faso étaient des adolescents. a affirmé aujourd'hui l'ambassadrice américaine à l'ONU, en appelant à l'instar d'autres membres du Conseil de sécurité, dont la présidente de l'Estonie, à agir davantage contre l'utilisation des enfants dans les conflits. Les enfants vous raconteront des histoires qu'aucun enfant ne devrait pouvoir raconter, celles d'être enrôlés sous la menace d'une arme, forcés d'assassiner des frères et sœurs, leurs parents, a déclaré Linda Thomas-Greenfield lors d'une visioconférence de chefs d'État consacrée aux enfants dans les conflits. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle doit statuer demain mardi sur une possible peine de prison pour Jacob Zuma. L'ancien président est accusé d'outrage à la justice par la commission anticorruption devant la plus haute juridiction du pays. Jacob Zuma, 79 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé et non comme un témoin. Médecins sans frontières a annoncé lundi suspendre les activités de son hôpital de Port-au-Prince pour une semaine, 2 jours après avoir été victime d'une attaque par des individus armés. L'hôpital de l'ONG situé à Martissant, un quartier de la capitale haïtienne, a été criblé de balles samedi. L'attaque n'a pas fait de blessés, mais MSF estime ne plus pouvoir continuer à soigner la population sans mettre son personnel en danger et à évacuer le personnel et les patients, selon un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Irak a dénoncé avec force aujourd'hui les frappes américaines meurtrières menées avant l'aube contre des positions de milices pro-Iran sur son territoire et en Syrie voisine. Ces frappes ont coûté la vie à près de 10 combattants et ont été menées en représailles aux attaques ayant visé ces derniers mois les intérêts américains en Irak. Les précisions de John Lindon.
À Bagdad, le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi a dénoncé dans un communiqué une violation flagrante de la souveraineté de son pays, tout en appelant à éviter l'escalade. Il a réitéré son refus de voir l'Irak utilisé comme un terrain de règlement de compte. L'Iran accuse, après les raids, les États-Unis de perturber la sécurité régionale. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a estimé lundi que ces frappes envoyaient un message fort à tous ceux qui attaqueraient les forces armées américaines. Cette action de légitime défense, destinée à empêcher d'autres attaques, envoie un message très important et fort, a déclaré M. Blinken à Rome. Le Hash al-Shabi, fer de lance de l'anti-américanisme en Irak, a confirmé la mort dans des frappes de 4 de ses membres dans la région d'Al-Qaïm, dans l'ouest de l'Irak. La milice a promis vengeance. Selon le Pentagone, ces raids ont été ordonnés par le président Joe Biden. Depuis début 2021, plus de 40 attaques avec des roquettes ou des drones ont visé les intérêts américains en Irak.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté aujourd'hui les alliés des États-Unis à rapatrier leurs citoyens arrêtés à l'étranger après avoir combattu au sein du groupe État islamique, estimant qu'ils ne pouvaient pas être détenus indéfiniment en Syrie. M. Blinken a lancé son appel depuis Rome lors d'une réunion de la coalition contre le groupe État islamique. Quelques 10 000 combattants présumés sont détenus dans le nord de la Syrie par des combattants kurdes alliés de l'Occident, selon des estimations américaines. Aucune décision n'a encore été prise sur une éventuelle extension de l'accord temporaire entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran concernant la surveillance de ses activités nucléaires, a déclaré aujourd'hui Téhéran. Ici aux États-Unis, les équipes de secours à Miami dans l'État de Floride continuent de fouiller les décombres d'un immeuble de 12 étages 5 jours après son effondrement. Le bilan s'est alourdi à 10 morts, mais 151 personnes sont toujours portées disparues. Le point avec Abdou Rahman Dia.
We are working 24 hours a day.
Depuis jeudi, des secouristes travaillent sans relâche pour tenter de retrouver des survivants ou des corps. Des renforts sont venus du reste des États-Unis, mais aussi du Mexique et d'Israël. Il y a encore plusieurs portées disparues et Daniel Levin-Cava, maire de Miami-Dade, où le drame s'est produit, déclare que des discussions franches sont engagées avec les proches des portées disparues qui continuent néanmoins de garder espoir. Les autorités municipales et étatiques promettent de continuer les recherches même si le temps presse. Les secours ont été ralentis par des incendies sur le site de la catastrophe. Certains ont critiqué la lenteur des opérations. Non loin de l'immeuble effondré, des personnes se sont rassemblées avec les noms et les photos des personnes toujours portées disparues. La grand-mère de Mikel Noriega est parmi elles et il a dit à l'AFP qu'il n'a pas d'autre choix que de garder espoir. En attendant, l'enquête sur les causes de la catastrophe a été lancée. Elle pourrait durer des mois. Des rapports d'expertise sur le bâtiment ont refait surface, dont un datant de 2018 qui avait noté des dommages structurels majeurs.
À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, lors d'une conférence de presse samedi à Goma au Nord-Kivu, Félix Tshisekedi a défendu l'adhésion de son pays à la communauté d'Afrique de l'Est. Le président congolais a déclaré que l'harmonisation des tarifs douaniers aiderait au rétablissement de la paix dans la région. En présence de son homologue rwandais Paul Kagame, M. Tshisekedi a parlé de discussions à venir sur l'harmonisation des politiques judiciaires et économiques avec les autres pays membres. Au Gabon, la première période du projet CAP sur l'autonomisation des jeunes a permis de former plus de 2000 jeunes à l'entrepreneuriat et aux métiers de l'agriculture et la pisciculture, selon le bilan de JIA Gabon. Pour la prochaine étape, les équipes vont lancer des formations en pêche à Port-Gentil, en apiculture à Makoku et en agriculture à Koulamoutou et Oyem. Le programme de 3 ans vise à former 16 000 jeunes dans le pays. La haute cour britannique a rejeté la demande d'invalidation d'une poursuite judiciaire à l'encontre de British American Tobacco et Imperial Brands, lancée par des cultivateurs de tabac malawites. Les plaignants accusent les multinationales de les exploiter dans les plantations de tabac pour une somme dérisoire, alors qu'ils font des millions de livres par an, estiment leurs avocats qui dénoncent les conditions de travail déplorables des cultivateurs.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Des championnats nationaux africains ont connu leur dénouement ce week-end sur le continent. Au Togo, l'AS Ko de Kara est sacré champion. Le club de Koza conserve son titre au terme d'une finale face à son rival l'ASK et dont le vainqueur a été connu après les tirs au but 4-3, un but partout après le temps réglementaire. Au Burkina Faso, l'AS Sonabel qui remporte le premier titre de son histoire après avoir battu l'ASFB 3-2 à l'issue de la dernière journée du Faso Foot en Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa s'offre son 27e titre au terme de la Super Division après son nul 0-0 face au FC San Pedro. Toujours sur le continent, les compétitions interclubs ont désigné les finalistes de cette saison. En Ligue des Champions, victorieux 1-0 de l'Espérance de Tunis à l'aller. Al Ahly du Caire a validé son billet pour la finale en disposant de nouveau, mais cette fois, 3-0 du club tunisien. Les Égyptiens, tenants du titre et forts de leurs 9 sacres, affronteront le 17 juillet prochain à Casablanca, au Maroc, les Sud-Africains de Kaiser Chiefs qui se sont contentés du nul 0-0 face aux Marocains du Wydad de Casablanca qu'ils avaient battu 1-0 à l'aller. En Coupe de la Confédération, la finale opposera le Raja de Casablanca aux Algériens de la Jeunesse sportive de Kabylie. Ces derniers ont dominé le Coton Sport de Garoua 3-0 en demi-finale retour après l'avoir battu 1-0 à l'aller au Cameroun. Dans l'autre demi-finale, ça a été plus difficile pour les Marocains qui ont dû recourir à la séance des tirs au but 5-4 avant d'écarter les Égyptiens de Pyramide FC 0-0 sur l'ensemble des deux matchs. Le Raja jouera cette finale face à la JS Kabylie le 10 juillet prochain à Cotonou. Direction l'Europe avec les 8e de finale de l'Euro 2020. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Bagassi Koura.
Oui, la Belgique remporte le match choc contre le Portugal grâce à Thorgan Hazard, auteur du seul but de la rencontre. En quart de finale, les Diables Rouges défieront l'Italie qui a battu l'Autriche 2-1. Et puis cette surprise, la République tchèque qui a éliminé les Pays-Bas 2-0 pour affronter l'autre sensation, le Danemark qui a dominé facilement les pays de Galles 4-0. La suite de ces 8e de finale, c'est ce soir la Croatie qui affronte l'Espagne à Copenhague et la France joue contre la Suisse à Bucarest. Les vainqueurs de ces deux rencontres s'affronteront en quart de finale.
Merci Bagassi. D'une coupe à une autre, la Copa América avec la 4e et dernière journée des matchs de poule ce soir à suivre simultanément dans le groupe A, Uruguay, Paraguay et Bolivie, Argentine. Hier, le dernier ticket des quarts de finale du groupe B est allé à l'Équateur, auteur d'un nul 1-1 face au Brésil. Le Pérou, vainqueur 1-0 du Venezuela, termine deuxième.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au lendemain d'une série d'explosions à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont décrété ce lundi la fermeture des marchés, des églises et des écoles pendant 48 heures et ont imposé un couvre-feu de 18h à 5h du matin. Pour comprendre la situation sur place, Marius Muunga a joint Nikeze Kibeloka, éditeur du journal Les Coulisses à Beni.
Bon, il faut dire que les autorités ont été un peu surprises avec ces deux explosions pour éviter qu'il y ait des dégâts humains. Ils avaient pris directement ces mesures-là et aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas eu école. Tous les élèves sont restés à la maison pour, selon les autorités, essayer de comprendre et de maîtriser la situation. Les militants tentaient de poser d'autres engins explosifs.
Et ce couvre-feu va prendre combien de jours?
Les autorités n'ont pas encore fixé parce que, selon elles, ils devaient d'abord mener des enquêtes pour comprendre ce qui venait de se passer parce qu'ils avaient d'autres informations selon lesquelles il y avait des possibilités d'autres explosions.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé réellement par rapport à ces explosions?
Depuis samedi 26 juin, il y a eu pratiquement deux explosions samedi. Le dimanche matin, il y a eu une explosion d'une bombe artisanale au niveau d'une église catholique. Avant la messe, il y a eu deux blessés. Et le soir, à 20h30 de Beni, un kamikaze s'est fait exploser avec sa bombe artisanale.
Est-ce qu'on connaît à ce stade l'identité de la personne qui portait ces engins?
Les forces armées de la RDC viennent de publier un communiqué. Ils ont identifié le porteur des engins. Il s'appellerait Ngudi Abdallah, sujet ougandais, chargé de formation et d'escorte des recrues qui viennent d'un peu partout, de Goma, du Sud Kivu, pour les amener dans le Rwenzori où se trouve ce compère ADF-MPM.
Donc cette personne serait de nationalité ougandaise?
Exactement.
Est-ce qu'il y a eu des revendications jusque-là?
Il y a un communiqué d'État islamique dans sa province de l'Afrique centrale revendiquait l'explosion.
Est-ce que ce genre d'explosion arrive souvent dans la région?
C'est un peu régulier, une fois ou deux fois par an. En 2014 déjà, il y a une explosion qui avait visé les dépôts d'armement des forces armées de la RDC. En 2017, c'est le maire de la ville de Beni, le maire civil de la ville de Beni, qui a échappé belle parce que l'explosion a eu lieu à quelques 300 mètres de la mairie. À 19h, il était encore dans les bureaux. Et en 2018, c'est une autre explosion qui a dévié juste pour tomber sur un manguier.
Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, il y a une grande différence parce que les premières explosions, c'était des bombes et actuellement, ce sont des bombes artisanales. Dans leur façon de faire, il y a eu une évolution parce que les bombes professionnelles, les bombes de 60 mm, il faut les acquérir avec par coup d'argent. Mais nous avions aussi appris par nos enquêtes que les ADF-MPM avaient été formés à la fabrication des engins traditionnels, des engins artisanaux pour éviter des dépenses. On est passé des bombes professionnelles, des bombes 60 mm à des bombes artisanales.
Nikeze Kibeloka, éditeur du journal Les Coulisses à Beni.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, la gravité de la situation sécuritaire a amené le président Kabore à s'adresser dimanche à la nation, une allocution de Roch Christian Kabore qui était attendue par les populations depuis le massacre de Solane dans le Sahel début juin. Le président Kabore a appelé à l'union sacrée et demande notamment à l'opposition de sursoir à ses marches de protestation prévues le week-end prochain. Que pensent les populations de cette sortie du président burkinabé? Suivez ces quelques réactions recueillies à Ouagadougou par notre correspondant Lamine Traoré.
Fadi Adam, scientiste musicien burkinabé. Je pense que son discours, pour moi, c'est trop en retard. Parce que le peuple ne veut que sa survie, la sécurité, son bien-être. Oui, quand on dit la patrie c'est d'abord nous qui la faisons. Il faudrait que nous soyons patriotes. Quand on est patriote, c'est pas pour suivre ou bien soutenir un camp d'individus, mais c'est pour soutenir son pays, l'aider à aller mieux. Voilà, dès l'instant où il y a eu l'attaque, il doit prendre des engagements forts parce qu'on a vu un peu l'interview du Premier ministre où ils disent qu'ils n'ont pas de solution. Là même, nous, on attendait qu'ils fassent, ils prennent des décisions fortes pour dissoudre le gouvernement, prendre des mesures fortes, mais il n'a pas fait. C'est-tu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, parce que, bon, je sais pas, parce que les gens ont commencé à se mobiliser, qu'ils sortent pour faire ce discours, je pense que c'est trop tard. Il faut qu'ils se saisissent.
Nadia Sano, personnellement, le discours m'a pas du tout convaincu. Moi, j'attendais vraiment beaucoup du président. Voilà, si c'était à propos de l'attaque de Solan a eu lieu, ça fait 3 semaines. Pourquoi il n'était pas sorti au lendemain de l'attaque faire le discours? Voilà, il a laissé jusqu'à ce que les OSC, les gens s'offusquent et jusqu'à ce qu'une marche soit engagée, où les gens ont commencé à manifester leur mécontentement. Et là, maintenant, il sort un discours vraiment qui n'est pas du tout convaincant.
Timoke est l'un des fondateurs du Ballet Citoyen, une organisation de la société civile.
Si effectivement on remarque un peu plus de fermeté dans ce discours, il s'avère que celui-ci est très en deçà et en dessous de l'attente des populations et du citoyen burkinabé. Il faut courageusement mettre les moyens qu'il faut à toutes les forces qui sont en place sur le terrain. Le terrain, certes, commande la manœuvre. Encore faut-il que le matériel soit à la hauteur de cette manœuvre-là et les gens qui la dirigent aussi, c'est-à-dire les chefs qui dirigent cela. Donc il faut radicalement changer les choses et se dire la vérité entre quatre yeux, quoi. Voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, beaucoup de gens sont sacrifiés, beaucoup malheureusement. Beaucoup de civils, beaucoup de militaires aussi, au nom d'une sécurité qui ne vient pas. Hein, on a l'impression qu'on s'enlise. Donc il faut avoir une vraie force, un vrai courage politique de prendre de grandes décisions, pas seulement de bonnes, mais aussi de grandes décisions. C'est-à-dire qu'ils ne souffrent d'aucun débat, d'aucune contestation et qu'ils mettent tout le monde d'accord.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire après le retour de Laurent Gbagbo. Après Abidjan, l'ancien président ivoirien a eu droit à un accueil triomphal dans son village de Mama, près de Gagnoa. Son retour après son acquittement par la CPI suscite un espoir auprès de beaucoup d'Ivoiriens qui y voient un signe d'une possible réconciliation en Côte d'Ivoire. Presque au même moment, un autre ténor de la vie politique ivoirienne, Guillaume Soro, est condamné à perpétuité alors qu'il est absent du pays. Nous débattrons de tout cela ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Gabon, l'allocation prochaine de 17 millions de dollars au gouvernement par la Norvège, en contrepartie de ses efforts de lutte contre la déforestation, suscite un intérêt auprès des défenseurs de l'environnement. Beaucoup d'ONG veulent y voir clair et en appellent à une gestion transparente de ces fonds. Les précisions avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
L'organisation non gouvernementale Plumerea, spécialisée dans la protection des mangroves, salue le financement de la Norvège pour les forêts du Gabon. Son président souhaite que les autorités en fassent bon usage. Landry Lignambou, de l'ONG Plumerea.
Il serait intéressant que le gouvernement se rapproche des acteurs de la société civile, qu'il y ait une concertation, parce qu'il faut qu'on travaille de concert, il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas recevoir des fonds. Après, chacun va tirer la couverture de son côté.
Mais la clé de répartition de ce fonds international est déjà élaborée. Selon Tanguy Gaouma-Bekale, il est le secrétaire permanent du Conseil national climat.
Les paiements reçus aujourd'hui vont améliorer nos gestions des parcs nationaux, améliorer les systèmes scientifiques qui ont permis de collecter toutes ces données-là, institutionnel qui a été mis en place. La deuxième chose, c'est que ces paiements doivent permettre d'accroître notre capacité à séquestrer du carbone. Aujourd'hui, nous avons une capacité de séquestration de 100 millions de tonnes de carbone par an et les forêts. Les populations qui ont accompagné le gouvernement à préserver les forêts par un usage rationnel vont aussi bénéficier des fonds qui ont été annoncés aujourd'hui.
Pour Marc Ona, figure emblématique de l'écologie nationale, il faut se garder de tout triomphalisme sur cette récompense en faveur du Gabon.
Si c'était un paiement pour services écosystémiques, on aurait évalué la performance de notre politique forestière, puis on aurait fait une estimation des coûts des services rendus selon une méthode bien connue, analyse coûts-bénéfices ou analyse mathématique multicritère. Or, rien de cela n'a été fait.
C'est une
publicité mensongère.
Pourtant, les autorités se félicitent du fait que le pays est un bon élève de l'économie verte grâce à la gestion des permis forestiers et de la création de 13 parcs nationaux. Professeur Lee White, ministre gabonais de la Forêt.
Et tout l'ensemble nous permet de créer des emplois, de contribuer à l'économie du Gabon et en même temps à préserver notre forêt, les stocks de CO2 dans notre forêt. On voit aujourd'hui que le monde entier nous regarde parce que c'est peut-être un modèle qui peut être exporté du Gabon à d'autres pays forestiers.
Le Gabon pourrait au total percevoir 150 millions de dollars s'il maintient ses efforts. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, l'accord bipartite de plus de 1000 milliards de dollars sur les infrastructures voulues par l'administration Biden entre dans une semaine critique. On devrait connaître l'ampleur des investissements américains dans la reconstruction des routes, ponts et autres projets. Michel Quinn fait le point, Yacouba Ouedraogo pour le récit.
Vient maintenant la partie la plus difficile. L'accord fragile entre l'administration du président Joe Biden et un groupe bipartite de sénateurs sur les dépenses d'infrastructure aux États-Unis doit gagner un soutien encore plus large des législateurs des deux partis. Ce qui reste incertain, c'est de savoir si le plan bipartite limité sera adopté ou si un projet de loi plus ambitieux et probablement plus polarisant, soutenu par les démocrates, pourra être adopté par le Congrès. Le plan bipartite prévoit que plus de 1000 milliards de dollars seront dépensés sur 8 ans pour les routes, ponts, voies ferrées, transports publics et aéroports, ainsi que pour l'amélioration du réseau électrique et l'expansion de l'accès à Internet haut débit. Pour aider à financer ces projets, le plan s'appuierait sur une aide pandémique inutilisée et d'autres moyens. Samedi, Biden est revenu sur une déclaration qu'il avait faite qui semblait lier son soutien à l'accord à l'adoption d'un autre projet de loi de dépenses sur ce qu'il appelle les infrastructures humaines, telles que les soins aux personnes âgées, l'éducation et la garde d'enfants. Ce paquet de 6 000 milliards de dollars inclurait des augmentations d'impôts sur les riches. Certains dirigeants démocrates ont déclaré qu'ils ne sont pas satisfaits du paquet bipartite allégé. Elizabeth Warren, sénatrice démocrate.
Je ne peux pas voter pour un sous-ensemble si le train d'infrastructure quitte la gare et la garde d'enfants reste sur le quai, l'énergie verte reste sur le quai, les milliardaires qui n'ont pas à payer restent sur le quai. Toutes les pièces doivent bouger parce qu'en fin de compte, tout est lié.
Pour surpasser l'obstruction systématique du Sénat, également divisé, le projet de loi aura besoin de 60 voix. Le sénateur John McCain, un démocrate qui faisait partie du groupe bipartite, a déclaré qu'il est temps de travailler sur un projet de loi d'infrastructure plus important.
Nous avons deux pistes. C'est exactement ce que je crois qui va se passer et nous avons travaillé sur une seule piste. Nous allons travailler sur la deuxième piste. Il y a énormément de besoins.
Le sénateur Rob Portman, un républicain qui a également travaillé sur l'accord, a déclaré que le plus petit paquet d'infrastructures peut servir à faire quelque chose.
Les gens veulent que nous fassions quelque chose, mais en particulier sur les infrastructures, et plus généralement, travailler ensemble pour résoudre de gros problèmes.
La Maison-Blanche et les dirigeants démocrates espèrent que les deux enveloppes seront adoptées en juillet.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.